Avec Jean-Pierre Petit ce matin, donc astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, je dirais le mauvais canard de la recherche. Il y en a beaucoup qui voudraient lui faire fermer le bec. Alors il y a ses ouvrages qui nous permettent d'aller plus loin. Un site internet aussi.
Oui.
Allez-y, donnez-le.
www.jp-petit.com.
D'accord. Voilà. Hein, alors moi j'y connais rien, mais bon, il suffit de taper le truc et ça marche tout seul. Donc votre ouvrage, On a perdu la moitié de l'univers. Et puis également, enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous aux éditions Albin Michel. Enquête sur les ovnis également chez Albin Michel. Et ce festival Science Frontières à Cavaillon à partir d'après-demain et jusqu'à dimanche prochain. Alors, Jean-Pierre Petit, non seulement il y a ces armes, cet avion, etc., etc., donc qui volerait de temps à autre, mais je voudrais aussi qu'on s'intéresse à un moment, là on oublie les Américains un instant, pour une information que vous avez remarquée du côté des Soviétiques avec Sakharov. Sakharov qui, dans un discours, lorsqu'il reçoit le prix Nobel, donc fait allusion d'une certaine manière aux extraterrestres.
Vous l'avez remarqué, oui.
Attendez, quand je dis, je dis. Hein.
Dans son discours de réception de prix Nobel, c'est extraordinaire, mais personne n'a fait attention à cette époque, personne n'a fait attention. Le texte, vous l'avez, bon.
Pour résumer, parce que, donc, il dit, de façon très claire, et c'est en ponctuation de son discours, qu'il y a des...
C'est la conclusion de son discours de réception de prix Nobel. Il dit que l'attitude de recherche vis-à-vis de ces écoutes de messages est extrêmement importante parce qu'on pourrait avoir un contact. Et moi, je pense que peut-être ce contact, il l'a eu.
Alors, d'autant plus qu'apparemment, l'origine de son prix Nobel, les travaux qu'il a menés, sont plutôt, je dirais, proches de ce que... Enfin, développaient une partie de ce que vous aviez abordé, vous, comme recherche.
Je pense pas qu'il ait eu le prix Nobel pour... est-ce qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix, tout simplement par...
Ah oui, peut-être, oui, d'accord.
Non. Bon, il a fait des travaux de cosmologie qui... Et moi, je savais pas. J'ai sorti mon premier travail en 77 et j'ai appris 10 ans plus tard qu'il avait travaillé là-dessus. Donc, je trouvais ça assez étonnant. Il y a aussi une chose que les gens ne savent pas, et ça, c'est développé dans un... Je trouve mon meilleur bouquin, c'est Les Enfants du Diable, chez Albin Michel, qui est sur le rapport entre l'armée et les scientifiques. Et là-dedans, il y a toute une annexe. On voit que Sakharov, c'est le père de la MHD russe. Donc c'est assez curieux. Il y a une similitude MHD Cosmo, pareil. Quoi.
Alors, au-delà des armes, je dirais, à moins que vous ayez encore un ou deux éléments à nous donner, mais c'est déjà pas mal de voir qu'il y a... Alors allez-y.
On découvre maintenant, par exemple, que Américains et Russes ont développé des armes bactériologiques complètement phénoménales. Je voudrais donner une précision, c'est que lorsque j'ai écrit le livre sur les humides, donc en 92, ça commence par une évocation de la lettre du Golfe, la lettre que les Espagnols avaient reçue quelques jours avant le déclenchement des hostilités. Et j'ai pas reproduit cette lettre. Je l'ai pas reproduit parce que j'ai pas osé. Ouais. Parce que dans cette lettre, il y avait un passage disant, nous vous avertissons que Saddam Hussein a implanté dans les pays occidentaux 65 commandos équipés avec des armes bactériologiques prêts à empoisonner les gens.
Mais Jean-Pierre Petit, quand on a ce type d'information, quelques mois, quelques semaines avant la guerre du Golfe, on peut se dire aussi qu'il s'agit là d'une manipulation des services secrets américains, pourquoi pas?
Mais écoutez,
est-ce que c'est une hypothèse que vous ayez envisagée?
Ben, franchement, dans cette lettre, il y avait le détail de toutes les cibles qui allaient être attaquées par missiles de croisière. Il y avait la description du GPS, qui était pratiquement inconnu à l'époque, donc qui était ce qui allait donner la supériorité aux Américains. Les Irakiens avaient dit, les Américains vont se perdre dans le désert, mais quand vous avez un GPS, vous ne vous perdez pas. Donc, ils ont écrasé complètement les Irakiens. Tout ça, c'était décrit par le MUL dans ce texte. Alors, pourquoi voulez-vous que des services secrets américains, plusieurs jours avant, dévoilent l'essentiel des plans de bataille? C'est absurde.
Alors, pour autant, comment se fait-il qu'il n'y ait que quelques personnes qui se retrouvent au contact de ces personnages venus d'ailleurs, qui donnent des informations extrêmement dérangeantes, mais qui peuvent permettre aussi d'aller plus loin dans la recherche? Et si on suit votre hypothèse, qui est extrêmement cohérente dans son développement à travers vos ouvrages, donc que l'on arrive à ces armes inimaginables que détiendraient les Américains, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi des Espagnols et comment les avoir choisis? À un moment donné, vous dites, c'est parce que, d'après les extraterrestres en question, c'est parce que les personnages contactés n'ont pas tout à fait les mêmes capacités cérébrales que les autres, c'est ça?
Oui, mais surtout, il y a une chose, c'est que les Espagnols, c'est ceux qui ont parlé, mais il y en a plein. Il y a un réseau français, on n'a jamais pu foutre la main dessus. Il y a des Français qui sont dans cette affaire-là.
Bon, moi, vous n'êtes pas de ce réseau et pourtant on aurait dû vous contacter.
Mais j'ai reçu des courriers, j'ai reçu des trucs, j'ai eu un contact, c'est vrai, même postérieurement au livre, bien sûr, parce que cette histoire-là a continué. Mais il y a un réseau implanté, organisé en France, il y en a en Italie, il y en a en Angleterre, il y en a en Russie, il y en a partout. Il n'y a que les Espagnols qui ont parlé.
Mais alors, pourquoi il y a Parce que là, quand je vous écoute, il y a donc des milliers de personnes qui se retrouvent dans ce réseau qui devient mondial.
Oui, absolument.
Et alors, pourquoi l'information n'arrive pas? Parce que bon, quand il y a trois personnes déjà qui ont un secret à partager, en général, il y a toujours un traître. Alors, quand il y en a autant...
Si vous voulez, il y a une chose, c'est que le moyen de pression donné, c'était si vous parlez, vous n'aurez plus d'informations. Et en Espagne, c'est le père Guerrero qui a disjoncté complètement et qui a mangé le morceau. C'est tout. Peut-être que s'il n'avait pas parlé, on n'aurait jamais rien su. Et rappelez-vous qu'à cette époque-là, les Espagnols ont reçu un courrier du Canada, du groupe canadien, disant « Vous savez que nous avons ordre de ne pas parler, pourquoi avez-vous parlé ?» Voilà.
Mais alors, pour autant, revenons à cette idée de personnage qui pourrait avoir une capacité intellectuelle peut-être supérieur aux autres, et c'est pourquoi ils seraient sélectionnés. Comment des personnages qui ne sont pas nombreux, au départ, ils sont 6 seulement à se poser à Digne, hein, selon cette version.
Oui, après, il y en a beaucoup plus.
Oui, bien sûr. Hein. Mais comment peut-on repérer les capacités cérébrales d'un individu? Parce que même quand on ne le connaît pas, il n'y a pas de possibilité de savoir, moi, si je suis extraterrestre, repérer Jean-Pierre Petit, de me dire ce type-là, il est plus intelligent que les autres, c'est pas évident.
Justement, il ne cherchait pas les gens intelligents. Parce que les gens intelligents, il y a un document qui dit, nous excluons les scientifiques, parce que ce sont des gens qui sont capables d'apporter la preuve de notre existence que nous ne souhaitons pas. Donc ils ont pris une frange moyenne.
Mais alors pourquoi se faire connaître si on ne veut pas être connu? Puisque là,
c'est une expérience sociologique, c'est tout. C'est-à-dire, on prend un échantillonnage de gens et, par exemple, les Espagnols choisis ont été choisis au hasard dans l'annuaire. Carrément.
D'accord, mais
avec une certaine catégorie socio-professionnelle. On leur a envoyé des textes et on a voulu voir comment ils réagissaient. Et comment ils réagissaient de deux façons. La première, c'était leur discours, mais aussi l'analyse à distance de leur circuit encéphalique. C'est-à-dire que nous savons maintenant faire des scanners, des choses comme ça. Il y a même des recherches, il y a des gens qui sont capables d'avoir une image en 3D du cerveau. Et quand on pose une question à un type, on voit des petites lumières qui s'allument, hein, on voit comment la vascularisation change, etc. On imagine très bien que des gens puissent, dans 3 siècles, faire ça à distance et qu'on sache comment le cerveau réagit.
Oui, mais à ce moment-là, il n'aurait même pas besoin, si on a une telle avance technologique...
Il faut le stimulus, il faut les textes. Donc ces gens-là, on leur demandait de lire les textes à voix haute. Donc en lisant les textes à voix haute, ça créait une réaction dans leur encéphale qui était enregistrée. C'est ça le but de la manie.
Bon, alors, là encore... Il y a des informations qui nous sont données sur la morphologie de ces humides.
Elles sont hypothétiques, vous savez peut-être.
Oui, voilà. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent dire n'importe
peut-être
quoi.
Peut-être qu'ils font 1m10 et qu'ils se font passer pour des mecs d'1m80. Peut-être, on n'en sait rien.
Tout simplement, il faut qu'ils soient proches de nous dans leur apparence, parce que sinon on les aurait repérés. Il n'y a pas de petits hommes rouges. Il faut que ce soit des gens qui soient proches de notre morphologie humaine.
Oui, là, vous voyez, par exemple, on parle de choses qui sont hypothétiques, et comme je vous ai dit, le verbe croire n'appartient pas au verbe scientifique, donc on parle de ces gens comme s'ils existaient, ce que je n'ai jamais affirmé. Donc ça, par contre, je voudrais...
Non, mais alors, simplement, pour essayer de comprendre, parce que c'est ça la démarche intéressante, c'est que vous vous référez à des textes qui vous permettent des avancées, on va voir qu'il y en a d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les militaires, des avancées dans la pensée. Donc, vous les authentifiez d'une certaine façon, puisque vous suivez les pistes qui vous le suggèrent.
Ils sont fonctionnels.
Voilà, mais pour autant, donc, vous n'êtes pas sûr que ces humides existent véritablement?
Mais à la limite, je m'en fous.
Le problème, c'est de comprendre votre pensée.
La question à me poser, c'est est-ce que ces textes fonctionnent? Ma réponse, c'est 100% oui, ils fonctionnent. Maintenant, qui est-ce qui les a écrits? Je ne sais pas. Vous savez, il y a le juge d'instruction et le jury. Moi, je ne suis que le juge d'instruction. Ne me demandez pas de donner une conclusion pour le procès. Par contre, ce que je voudrais vous dire, qui est un peu une retombée de cette visite à Brighton, je suis revenu de là-bas consterné. Parce que j'ai réalisé une chose, c'est qu'en 53 ans, qu'est-ce qu'ont fait les terriens d'informations extraites de ce dossier OVNI? Des armes uniquement. Et franchement, quand on voit ça, on se dit, je serai extraterrestre, ces gens sont fous. Vous comprenez? Les terriens sont fous. Parce que ces gens-là m'ont raconté ça avec toute candeur. Nous avons des torpilles, nous avons des avions, nous avons des bombes antimatières. Qu'est-ce qu'on s'amuse? C'est formidable. Moi, j'étais consterné.
Mais n'est-ce pas la misère de la pensée humaine? Parce que quand on regarde l'histoire, quelle qu'elle soit, c'est toujours à travers l'armement que l'on développe les plus grandes, les plus grandes filières de pensée. C'est là où on s'investit le plus. C'est dans l'armement, dans la recherche de l'armement.
Dans mon livre Les Enfants du Diable, j'ai montré comment justement cette espèce de folie était née avec le projet Manhattan et tout ça. Mais ça continue. Regardez, on découvre que les Russes avaient fabriqué des quantités hallucinantes d'armes bactériologiques. Il y a même un journaliste qui a interviewé un scientifique russe, et on s'aperçoit que le type, il est pris dans son truc, et il se pose même plus la question de savoir à quoi ça peut servir. C'est simplement, c'est fascinant. C'est magnifique, c'est extraordinaire.
Mais ils sont quand même candides, les humides, s'ils existent, parce qu'ils nous mettent sur des pistes, et après, ils s'étonnent qu'on en fasse ça.
Non. Disons que moi, j'ai peut-être été une bavure pour eux, parce que ces trucs-là étaient peut-être pas faits pour être compris, du moins si facilement. J'ai quand même travaillé des milliers d'heures, moi, pour arriver à sortir ces trucs-là. Les gens qui s'imaginent qu'on va lire un texte comme ça et sortir quelque chose, eh ben, ça marche pas, quoi. C'est tout.
Mais il faut bien que les Américains aient eu aussi connaissance de ces textes.
Ils n'ont pas eu que ces textes, ils ont eu des épaves, ils ont eu des informations, ils avaient des enregistrements. Pensez donc, à partir du moment où on se dit que les gens sont pas des imbéciles, il y a une tapée de choses à faire. Il y a à équiper les avions de chasse avec des bonnettes spectrographiques pour avoir des spectres d'ovnis. Il y a étudier les traces biologiques après les atterrissages. Il y a des tas de choses. Et puis quand on a des épaves, ben, on a des informations extrêmement importantes. Et les Américains de Brighton m'ont dit, on a, et ça, c'est vrai, ils l'ont confirmé.